perdre le pouvoir, 2 mois après, se mettre à faire une conférence de presse.
Oui, justement, c'est une rupture dans ce qu'on peut considérer comme une tradition. Senghor est parti sur la pointe des pieds, sans, et est resté très très longtemps sans se prononcer sur les activités de celui qui l'a remplacé. Abdou Diouf a fait la même chose. Donc, il y a comme une tradition qui est en train de s'installer. Donc, une espèce de respect, une espèce aussi de considération pour celui qui vous a remplacé. Et aussi, je pense que c'est comme ça que ça doit se passer. C'est républicain, c'est civilisé, et puis bon, on vous a battu, vous rangez vos bagages, vous partez. Si vous pouvez apporter des conseils, si vous pouvez faire des recommandations pour aider celui qui vous a remplacé, ça peut être très bien accueilli. Mais ici, en vérité, à mon avis, c'est que Ouad a rompu même le pacte qu'il a lui-même prononcé et qu'on ne l'a pas obligé, n'est-ce pas, à formuler. Il avait dit, je ne ferai pas pire que Abdou Diouf. Mais je pense que M. le ministre Youssou N'Dour, dans une de ses sorties, a bien répondu à Maître Ouad par rapport à cela. Je ne reviendrai pas dessus. Mais bon, ici, c'est Ouad qui est le créateur de l'événement. C'est lui qui a impulsé cet événement. Donc, d'une certaine manière, il a réussi parce que par le contenu de son message, par l'orientation de son message, il a irrité par endroits l'opinion, mais il a également pu susciter un certain débat et en faisant oublier d'une certaine manière le thème principal qui apparemment justifiait cette sortie-là.
Kalinien, quand on a écouté Abdoulaye Ouad, lui, il a donné comme argument pour sa sortie, c'est que depuis qu'il est parti, qu'il y a quand même une force de curé hein, contre sa personne, on parle d'audit, on parle de voleur, et qu'il était obligé, lui, de sortir de son terrier pour justifier un peu, comment on appelle ça, se défendre par rapport aux attaques.
Bon, écoutez, Alassane, je partage l'analyse de Racine. Alors, ce discours de M. Abdoulaye Ouad est un discours complexe, truffé de non-dits et un discours qui doit être un discours qui nécessite, si vous voulez, une lecture souterraine, mais aussi une lecture en profondeur. Je m'explique. Il ne s'agit pas de commenter le discours d'un président en exercice, de un, mais plutôt le discours d'un citoyen, d'un militant de parti qui va ou qui ira aux élections législatives dans quelques jours. C'est pourquoi je suis d'accord avec l'analyse de Racine qui dit que Ouad a réussi son pari, parce que là, il ne voulait pas être enterré du coup, même s'il a été battu le 25. C'est une façon de dire aux Sénégalaises et aux Sénégalais que je suis encore là, mobilisez-vous, les législatives sont jouables. Alors, il l'a fait pour galvaniser plutôt ses troupes, pour les réchauffer, pour leur donner aussi plus de jus, plus de confiance, pour que ces derniers, peut-être, soient dans les conditions ou les dispositions, n'est-ce pas, pour reconquérir, si vous voulez, l'Assemblée nationale. Mais Alassane, il y a des points forts quand même et des points faibles du discours. Sur les points forts, c'est ce que Racine disait tout à l'heure, cette volonté de galvaniser et de réchauffer, ce besoin existentiel qui est là, mais aussi Ouad, qui est éminemment politique, a décidé d'enfiler, encore une fois, sa robe d'opposant. Cette robe qui est taillée sur mesure, qu'il voit très bien. C'est comme si on avait en face de nous le Ouad du temps de Senghor ou Ouad opposant de Diouf à l'époque. Donc avec le ton du discours qui était menaçant quelque part et tout.
Mais il a quand même justifié sa sortie par rapport au fait que depuis qu'il est parti du pouvoir il y a 2 mois, que la presse, les nouvelles autorités passent leur temps à dire qu'il y a un vol qui a été perpétré, qu'il y a des audits qui l'attendent et qu'il voudrait que les choses soient clarifiées.
Oui, écoutez, ce débat, vous savez, il est dépassé parce qu'avant lui, ses collaborateurs, notamment ses anciens porte-parole, ont organisé des conférences de presse, n'est-ce pas, pour justifier ou expliquer ces accusations là. Serigne Makenga s'est prononcé, Maître Amadou Sall, etc. Le parti lui-même, n'est-ce pas, s'est prononcé sur cette affaire, je pense que Wad n'avait pas à revenir, n'est-ce pas, sur ces accusations. Alors peut-être que c'est un prétexte pour parler aux Sénégalais, pour communiquer effectivement au plan politique. Mais ce discours a des points faibles. Et je pense que ce sont les points qui m'ont le plus marqué. D'abord, l'opportunité du discours. Pour moi, c'était un discours qui est vraiment inopportun. Un discours qu'on n'a pas préparé. C'est comme si les extrémistes de son camp l'ont poussé, n'est-ce pas, à sortir de ses gonds, à parler aux Sénégalais, question de les protéger, protéger sa famille. Parce qu'il y a l'immixtion de la famille dans son discours. Quand il parle de redevance AP, de redevance de Mme Wad, quand il parle des cas Karim Singeli, cela va à l'encontre de nos systèmes de représentation. Comme on dit en Wolof, de Femene, dans les lacs d'hommes, d'or d'hommes. Parce que d'un côté, il défend Karim et Singeli. De l'autre, il accuse Abdoulaye Baldé, qui était également son collaborateur. Cette immixtion-là, je pense que ça ne passe pas dans nos croyances, dans nos systèmes de valeurs. Il y a aussi un autre aspect beaucoup plus fondamental, et qui constitue une faiblesse, si vous voulez, une faiblesse de taille, c'est les attaques personnelles. Wad qui s'attaque à Nias, Wad qui s'attaque à Tanor, qui s'attaque à Pape Diop. Voyez un peu avec un ton vraiment menaçant qui frise des déballages. Ça aussi, ça heurte la morale et l'étiquette. Ça me rappelle le lendemain de sa victoire de 2007, lorsqu'il a exhibé les dossiers de Tanor et de Nias sur sa table, et même les dossiers de Idrissa Seck. Donc c'est quelqu'un qui est toujours dans une logique combative. Il veut toujours montrer qu'il est là et qu'il sait faire mal. Et je pense que ce sont ces genres de pratiques, je pense qu'on doit bannir, n'est-ce pas, du champ politique, parce qu'effectivement, ces pratiques contribuent au délitement, n'est-ce pas, du lien politique qui devrait lier l'opposition et pouvoir et faciliter peut-être probablement le dialogue, parce que le dialogue est nécessaire. Mais aujourd'hui, c'est comme si Wad cherchait à fermer ou à verrouiller, n'est-ce pas, les portes du dialogue et qu'on se trouve dans une sorte d'impasse. Alors qu'on a besoin de pacifier les rapports sociaux, de pacifier les rapports politiques et de participer à l'effort de conscience nationale.
Oui, mais Racine Talla, Ablaye Wad a dit qu'il veut avoir les rapports normaux, hein, les meilleurs rapports avec le nouveau président Macky Sall, mais il s'en est pris aux collaborateurs de Macky Sall en disant que les audits sont agités de gauche à droite, il n'y a pas de preuves, qu'il est traîné dans la boue, qu'il est obligé de sortir de sa retraite pour se défendre.
Oui, moi je pense que Abdoulaye Wade, quelque part, en tout cas par rapport à sa famille ou à certains membres de sa famille, on peut dire peut-être qu'il a le couteau sur la gorge. En vérité, il s'agit de ça. Je pense que l'affaire Viviane Wade, cette histoire de détournement avec implication d'acteurs suisses, je pense que ça l'a fortement secoué. Et quand on fait une analyse avec peut-être une petite orientation psychanalytique, on comprend que Wad, en fait, c'est une espèce de cri de détresse et qui va jusqu'à une invite voilée à Macky. Parce que très, il lui a dit « So khamoul nyoal lakmo ». Donc, ce contact qui est coupé entre lui et Macky, c'est maintenant qu'il en voit l'impact. C'est maintenant qu'il en voit les conséquences. Parce qu'entre un ancien président et un président en exercice, il peut y avoir dialogue. On l'a vu. On a vu des civilités. D'ailleurs, entre Wad et Abdou Diouf, entre Senghor et Abdou Diouf, c'était pas véritablement ça. Mais en général, c'est ça. L'actualité à venir nous dira, va révéler en vérité certaines choses par rapport au cas de Mme Wad.
La première fois, Racine Talla, qu'on le voit.
Oui,
ensuite, un ancien président, aussi Willy Pandé aussi.
Oui, justement, c'est parce qu'il était en hibernation. Macky a réussi une belle sortie en parlant, en tout cas, qui a été apprécié globalement par l'opinion. Lui aussi, il fait sa sortie en parlant de ses audits. Mais lui-même, au lendemain de sa victoire, et je pense qu'il y a un journal, un quotidien, d'ailleurs c'est Le Quotidien, il faut le citer, ou Wal Fadjiri, je ne sais plus, il disait que oui, si, bon, les présidents, on les épargne, mais si les audits avaient révélé des choses qui pourraient compromettre certains ministres, je les utiliserais. Mais donc pourquoi Macky ne peut pas se le permettre, tout en n'utilisant pas le terme utilisé. Parce qu'en vérité, il faut accepter que c'est l'administration qui a fonctionné normalement, c'est les rapports de l'IGE, c'est pas venu du néant. Donc, ce sont même pas des rapports d'ONG. En vérité, c'est l'administration de l'État qui a impulsé, conformément à ses missions, ce type d'audit. Et les audits sont bouclés, en tout cas sont consignés dans des rapports transmis à l'autorité, charge à l'autorité de transmettre au procureur, etc., etc. Mais donc ici, le cas de sa famille est revenu. Laissez-les tranquilles, ils ne peuvent même plus voyager parce qu'ils peuvent être appelés à tout moment par les autorités judiciaires, etc. Donc, Watt voulait sauver sa famille. Mais il aurait pu sauver sa famille, entre guillemets, je mets le terme sauver, si peut-être il était certain d'avoir un pourcentage peut-être à l'Assemblée qui le mettrait à l'abri de la convocation de certaines commissions, etc. Mais aujourd'hui, avec la cassure qu'il y a eu au sein du PDS, aujourd'hui, Bok Gisgis, Sopi, etc., bon, il n'est plus sûr qu'il peut avoir cette espèce d'immunité. Et donc, on jette l'anathème sur Pape Diop. Et c'est curieux que ce soit seulement maintenant qu'un ancien chef d'État, qui a tous les renseignements avec lui, découvre que son presque bras droit aurait deux noms, ou etc. Et ça, c'est pas nouveau. De toute façon, la presse a ses sous. Donc, voilà un peu d'un point de vue. Donc, c'était même pas pour mobiliser ces militants, mais c'est. Et à un moment, dans les discours, moi j'ai entendu Watt dire que oui, vous savez, la passation de service, ça s'est passé très vite. On n'a pas l'occasion, en vérité, de discuter des grands projets, mais moi je vais écrire un livre pour y consigner les projets que j'ai bouclés, pour lesquels j'ai obtenu des engagements financiers. Si le Sénégal en veut, je pourrais toujours, etc. Mais s'ils ne veulent pas, je vais aller vendre ces projets-là à l'extérieur. Mais là, je serai payé. Donc, il veut parler à Macky. Moi, c'est ça que je pense.
Oui. Alors, donc, oui, pour rebondir sur cette affaire, dans son discours, il y a un passage où il dit « Je veux avoir des relations normales
justement
avec Macky. » Alors, le normal, il y a le normal, il y a le pathologique.
Et le normal, alors, c'est un peu aussi à la mode. Hein. Depuis Hollande,
et là, effectivement, on présente normal. Alors, avoir des relations normales avec Macky, cela veut dire quoi? Cela veut dire que Macky, déjà, on se connaît. Macky est issu peut-être de mes flancs. Il a quelque part assumé des responsabilités à mes côtés. Il sait des choses. Moi aussi, j'en sais autant. Alors, maintenant, il appartient à ses collaborateurs qui peut-être ignorent ce qui me lie à Macky, de se taire ou d'arrêter carrément les attaques, les invectives, etc. Donc, il s'est plutôt adressé, à mon avis, aux collaborateurs, aux alliés et même futurs alliés, parce qu'il considère Bok Gisgis comme des futurs alliés de Macky Sall, parce qu'il y a juste un pas à franchir pour entrer dans la nouvelle mouvance présidentielle. Et maintenant, Watt, étant un fin politicien, il cherche à déstabiliser, n'est-ce pas, du coup, Bok Gisgis, en essayant de vilipender ou de mettre à nu Pape Diop et compagnie, si je peux m'exprimer ainsi. Question de fragiliser un peu, n'est-ce pas, cette nouvelle formation, n'est-ce pas, qui est en train de se chercher jusqu'au moment où on parle. Mais tout ceci pour vous dire que Watt a la stratégie de la sèche. Donc cet animal marin qui, pour détourner ou tromper la vigilance des prédateurs, émet, si vous voulez, un jet d'encre pour colorer l'eau. Et en profiter pour se faufiler et se mettre à l'abri.
Mais Khalinia, il y a aussi d'autres gens qui estiment qu'aujourd'hui, que les audits agités par le nouveau pouvoir, c'est une sorte aussi d'os qu'on fait, qu'on donne à la population sénégalaise pour aussi chercher l'orientation. Parce que les autorités ne savent pas par quel bout prendre les
mais
audits.
Mais tout à fait, c'est pourquoi j'ai fait allusion à la stratégie de la sèche. Donc, il ne veut pas qu'on parle présentement de ces audits, parce que depuis le 25 mars,
au moment où on parle aussi ces audits, parce qu'il y a une demande sociale là.
Justement, c'est une demande sociale.
En cherchant les nouvelles autorités.
Les audits sont
aujourd'hui n'avons pas encore l'orientation qu'il faut par rapport à ça.
Non, tout à fait. Même par rapport à cette nouvelle équipe, je sais que tout n'est pas encore en place. Je sais qu'il y a beaucoup de tâtonnements
face à l'impatience
entre nous, hein, et la demande est trop forte. Les Sénégalais s'impatientent. Alors, les Sénégalais s'attendent à ce que les coupables soient punis, que les audits soient réalisés. Et je vous dis qu'en 2004, il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui avait épinglé des autorités de l'ancien régime. Mais il faut dépoussiérer ces rapports. C'est pour vous dire que les autorités n'ont pas à perdre encore du temps pour aller, n'est-ce pas, à cet audit qui est une mesure de salut public. Parce que c'est nécessaire, c'est fondamental. Quelqu'un qui n'a rien fait n'a pas peur, ne doit pas avoir peur d'être audité. Donc que ce soit Ouad, que ce soit les anciens ministres, tous ceux qui ont occupé de très hautes fonctions ou qui ont géré les ressources publiques, doivent effectivement faciliter, n'est-ce pas, cet exercice. Maintenant, peut-être qu'il y aura, pour éviter les casseroles ou, si vous voulez, une situation qui ne sera pas forcément l'une des meilleures, peut-être Ouad essaie de dévier un peu l'orientation, n'est-ce pas, en déclarant une guerre ouverte. Comme ça, les gens, peut-être, ils seront tentés de laisser cette audit. C'est ce que, d'ailleurs, c'est un piège. Et c'est ce que les Sédougueux ont accepté, malheureusement. C'est une erreur de com qui est impardonnable. Alors, mais si Ouad a provoqué la nouvelle majorité, c'est comme s'il est toujours au pouvoir et que la nouvelle majorité s'est comportée comme un groupe d'opposants en réagissant de manière spontanée, de manière non articulée, non structurée, n'est-ce pas, à l'agression de Ouad. C'est un piège. Ils ne devraient pas. C'est eux qui gèrent le pays. C'est eux qui sont les meneurs de jeu. Ils devraient répondre par l'exercice qui était en même temps en train de s'opérer au quartier général, parce qu'ils faisaient le bilan des 60 jours, par exemple, de Macky Sall, en faisant de la stratégie et de la prospective, n'est-ce pas, pour essayer de voir les voies et moyens pour conduire ces pays-là. C'était ça la réponse de la sortie de Ouad, mais pas œil pour œil, dent pour dent, comme ils ont dit. C'est pas ça. Parce que ça, c'est une provocation, c'est une grosse farce, mais malheureusement, c'est un piège qui a été creusé, et que ces gens-là, ils sont tombés dans ce piège. Mais au plan de la communication, moi, je pense que c'est une erreur entre nous.
Racine Dallah, certains disent aussi que les audits agités par les nouvelles autorités, elles ne peuvent pas passer leur temps d'audit, audit, audit, parce qu'il y a déjà l'existant qui est sur la table. La CNDF a fait des audits, a fait un travail qui est sur la table, des nouvelles autorités, il y a la continuité de l'État. Le fait de maintenir l'os des audits, c'est quelque part essayer de calmer l'impatience des Sénégalais par rapport à certaines choses beaucoup plus importantes. Pour beaucoup de gens, les nouvelles autorités veulent noyer le poisson.
Ce n'est pas mon avis du tout. Bon, je vais répondre à cette question sur la forme tout à l'heure. Parce que Ouad, sur le plan médiatique, c'était aussi très très bien préparé. Hein. C'était comme un chef de l'opposition en Angleterre avec son shadow cabinet plein de ministres, n'est-ce pas, ses collaborateurs, alors qu'il était en train de critiquer ou en tout cas de jeter l'anathème sur les collaborateurs du président Macky Sall. Mais moi, ce que je vais vous dire, Alassane, ce serait dangereux de penser que les audits, c'est un os qu'on jette comme ça à l'opinion et pour se donner le temps de faire ce qu'on a envie de faire. Moi, je peux vous assurer.
Parce qu'il y a de l'existant quand même.
Non, mais quand vous dites CNTIF, je ne crois pas que le rôle du CNTIF soit de faire des audits. Le CNTIF
a fait des rapports,
repérer des mouvements, n'est-ce pas,
des rapports qui sont sur la table du procureur.
Oui, mais ça peut déclencher un audit. Attention, même les audits dont on parle, mais quand on suit les procédures normales, parce qu'on est dans un pays démocratique, hein? Tout est présomption, on est d'abord présumé innocent, mais il y a le temps de la justice qui n'est pas le temps de la presse, qui n'est pas le temps des populations. Si également on bâcle les audits, on a bâclé les audits pour un règlement de compte politique. Pour le reste, je ne suis pas d'accord avec vous, Alsan, quand vous dites les nouvelles autorités ne savent pas par quel bout prendre. Mais non, les nouvelles autorités, mais... C'est l'administration qui c'est le même corps de fonctionnaires qui est là. C'est peut-être il y a de nouveaux ministres. Il faut respecter quand même notre administration. Et ce n'est pas le ministre qui donne la méthodologie des audits. Il y a des corps dont c'est cela la spécialité. Et ces corps-là, même le président, je ne crois pas que ce soit dans son intérêt que de les bousculer pour accélérer des résultats de tel audit. Et encore une fois, audit, peut-être c'est un. C'est la perception qui est aujourd'hui devenue négative, mais c'est un exercice normal. Mais
est-ce que vous n'êtes pas tombé dans le piège des audits? On en parle beaucoup, alors que le plus important pour beaucoup de Sénégalais, c'est la cour de répression de l'enrichissement illicite qui est la plus importante par rapport aux audits. Par les audits, souvent, c'est les petits fonctionnaires, les DAJ et les SAJ qui risquent de payer le coût, parce que c'est eux qui gèrent et qui exécutent les projets. Alors que la cour de répression est beaucoup plus importante en termes de recherche de l'argent qui aurait été volé.
Ah, pas forcément, Alsan, pas forcément. Mais on peut voler de l'argent et mais vraiment le blanchir, le recycler, mais vous ne verrez rien du tout. Vous verrez que du feu, comme on dit. Donc, je pense qu'il faut faire quand même la part des choses entre les audits et la cour de répression de l'enrichissement illicite. Et même, je pense qu'il y a eu un gros effort de communication par rapport à ça, parce que comme cour d'enrichissement illicite, c'est connoté. On a joué sur le contenu et la relation pour un peu proposer un nom qui soit beaucoup plus acceptable. Cour de récupération, c'est beaucoup plus positif que répression de l'enrichissement illicite, parce que c'est le résultat attendu qui est le plus important. Donc, c'est pour vous dire que c'est un engagement de campagne, donc c'est extrêmement important. La presse est peut-être beaucoup plus pressée que les populations, parce qu'on dit que les populations attendent. Mais je pense que le gouvernement va communiquer régulièrement sur le processus suivi par ces audits. Et maintenant, comme je l'ai dit, et c'est le temps de la justice, ce n'est pas le temps de la presse. Il y a aujourd'hui ici des dossiers qui ont été dont l'instruction a commencé depuis 10 ans, mais qui ne sont pas encore bouclés.
Oui, mais Kali, les gens estiment qu'aujourd'hui, que les audits, il se pourrait que les lampistes payent à la place des ministres. On a vu des ministres aujourd'hui mettre en prison leur DAJ ou leur SAJ, alors eux, ils sont pratiquement hors d'atteinte. Est-ce que ce n'est pas un piège de se concentrer sur les audits en laissant de côté la vraie question de l'enrichissement illicite?
Oui, vous n'avez pas fait ma raison, parce que la question sur l'enrichissement illicite, elle est beaucoup plus vaste et même beaucoup plus intéressante, parce qu'au-delà même de ceux qui ont occupé des fonctions politiques, il y a même des gens qui sont peut-être dans le privé et qui sont enrichis de manière vraiment illicite. Ça aussi, je pense que ça nécessite quand même que l'on s'y attarde un peu. Mais comme vous venez de le dire, les audits, je pense que c'est pas véritablement ce qui pourrait nous sortir de cette situation-là de gabegie, etc. Parce que comme vous venez de dire, effectivement, on peut auditer un ministère et au finish être poussé à mettre le DAJ ou le SAJ en prison. Alors que peut-être l'objectif visé, c'était celui qui s'est enrichi. Parce que le DAJ ou le DAF, peut-être, il peut être de connivence.
Un exécutant.
Ou un exécutant, ou participer à l'enrichissement, si vous voulez, de son ministre de tutelle. Mais ce dernier ne signe pas. Ce dernier n'a rien à voir avec ces procédures-là. Et c'est pourquoi, donc, quelque part, c'est une injustice de mon point de vue. Alors, donc, les plus vulnérables risquent de payer, n'est-ce pas, à la place de ces bandits de grand chemin qui ont pillé les ressources publiques. C'est pourquoi, donc, les audits sont de portée moindre par rapport, n'est-ce pas, à cette vaste opération, n'est-ce pas, qui consisterait, de mon point de vue, à mettre sur pied cette structure-là, qui sera dotée de moyens et de pouvoirs coercitifs, qui aura la possibilité de faire, si vous voulez, une évaluation exhaustive, une analyse de la situation exacte, et de tracer les orientations qui seront déposées au niveau du ministère de la Justice, et que ces derniers auront la possibilité de prendre les décisions qui s'adapteront. Maintenant, ils auront la possibilité d'envoyer en prison, par exemple, un ministre ou un directeur général. Mais si c'est le cas des audits, vraiment, la portée, elle n'est pas trop élargie. Donc, il n'y a même pas cet aspect coercitif. Hein. Ben, ce n'est pas la première fois qu'on envoie un DAJ ou un SAJ en prison. Oui, je vous donne l'exemple du ministre Adam Sall. Alors, donc, avec tout ce qu'on dit sur ce dernier, mais en réalité, il est toujours là en liberté. Et malheureusement, c'est son DAJ, effectivement, qui a payé les pots cassés. Et c'est valable pour tous les autres ministres qui, de mon point de vue, sont...
Il y a le DAJ Ifrania qui va bientôt pour boucler 3 ans de prison.
Mais justement, c'est ça que je... Voilà, c'est ce que je disais tantôt.
Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas quand même concerné. Mm-hmm. Mais c'est vrai que Il y a un sérieux problème hein, à ce niveau-là. Bon, c'est comme les cuillères de Awa Ndiaye et tout, Kanto Bey. Je suis sûr que si on regarde le dossier, ce sera difficile de voir le nom de, ou la signature de Madame le ministre, si c'est avéré. Alors, il y a aussi le problème des bons d'engagement. Vous savez, je pense que les audits, ou en tout cas, le processus, ce qui est en train d'être secoué, doit mener à un certain nombre de réformes. Parce que il faut aussi regarder en amont comment ça se passe. Les demandes de renseignement de prix avec shortlist, là, les abus sont permis. On ne peut pas, c'est très difficile parce qu'il y a des seuils de montant. Les marchés, comment c'est fait, les commissions, comment elles sont constituées. Ensuite, quand on vous donne votre bon d'engagement, vous êtes payé 6 mois. Parfois, il y a des gens, leur société se limite à leur cartable, vous avez le cachet là-dedans.
Des ministres qui créent beaucoup de sociétés, fractionner les prix, les marchés.
Etc. etc. Donc, c'est tout un travail. Ce que Macky a entamé là, mais ne vous attendez pas, ne nous attendons pas à ce que les effets soient visibles dans le court terme et même dans le moyen terme. Parce que, à mon avis, tous ces chantiers ouverts sont comme une espèce de signaux hein, pour une révolution des mœurs administratives, si on peut parler comme ça. Je pense que c'est ça. Les manuels de procédure sont bien faits, ils sont bien rédigés. C'est comme la Constitution, elle peut être bien rédigée, mais si on n'a pas de démocrate à la tête des pays, mais on peut manipuler la Constitution, parce que la Constitution aussi vous donne les moyens de la contourner ou en tout cas de la réviser. C'est la même chose pour toutes ces procédures pour engager un marché, l'exécuter, le liquider, etc., même jusqu'au PV de réception. C'est extrêmement compliqué et je vous dis que c'est une machine pourri, corrompu, et c'est jusqu'au plus petit employé. Donc, c'est toute la chaîne qui peut être concernée dans certains cas. Donc, je pense qu'il faut que les Sénégalais s'arment aussi de patience et aussi participent à cette lutte contre la corruption. Parce qu'au Rwanda, on a vu ce que ça a donné. Quand tu vois ton voisin Kalinia, je le voyais prendre les tatas, bon, il est nommé conseiller du premier ministre Souleymane Déné Ndiaye. Le lendemain, je vois qu'il s'achète de belles choses. Sa femme va à Dubaï. Bon, au Rwanda, on dénonce ce genre de situation. Donc, il faut aussi des mécanismes pour un contrôle citoyen qui soit réel, qui soit effectif. Donc, à ce niveau-là, que ce soit les ONG, que ce soit les populations elles-mêmes,
est-ce qu'en gros, cette dénonciation ne peut pas aussi être aussi un règlement de compte aussi?
Mais ça, attention. Mais ça sera jamais un règlement de compte. Parce que, écoutez, on a un pays quand même où il y a un arsenal, où il y a un dispositif juridique qui permet aux citoyens quand même de faire respecter les libertés.
Mais Hassan, sur cette question, Watt a fait allusion, n'est-ce pas, à l'ancien régime socialiste en parlant d'audit. Alors, il a demandé à ce que les audits soient beaucoup plus s'élargissent et qu'on s'intéresse à la gestion de Abdou Diouf et même de Senghor. Alors, c'est une façon de dire que voilà, c'est une pratique qui n'est pas nouvelle, une pratique très courante et qui n'est pas le propre d'un seul système ou d'un régime. Alors, sur ce plan, moi je partage son point de vue sur ce plan, parce que aussi sur Diouf, il s'est passé un certain nombre de choses que les Sénégalais jusque-là ignorent. Alors maintenant, s'il y a cette possibilité de revenir sur
cet enregistrement, justement, c'est à lui.
En fait, il avait la possibilité de le faire.
Il avait la possibilité.
Justement, il ne l'a pas fait. Et là, c'est ce qui crée un blocage pour moi. Et il risque d'être de mettre mal à l'aise cette nouvelle équipe gouvernementale, qui peut-être sera soupçonné de faire des audits, si vous voulez, sélectifs ou politiques. Ce qui peut-être risque de ne pas être le cas. Si je sais qu'il y a un arsenal qui est là, il y a de l'existant qui est là, comme je l'ai dit. Le rapport de 2004 est là. Il y a les cours, comme par exemple CENTIF, Commission nationale de lutte contre la corruption, concussion, etc. Mais il faut rationaliser toutes ces structures-là, leur donner beaucoup plus de moyens pour qu'ils puissent harmoniser, n'est-ce pas, leurs actions et épingler, n'est-ce pas, les fautifs. En ce moment, on ne dira pas que voilà, c'est une chasse aux sorcières, les audits sont orientés ou destinés, si vous voulez, à casser, n'est-ce pas, des responsables politiques. Autrement, il risque d'avoir un mauvais procès qui sera, si vous voulez, entretenu, hein, et qu'on ne pourra rien faire en ce moment parce que l'ancien régime est libre de dire que les audits seraient orientés ou c'est une question de règlement de compte. Mais tout le monde sait que il y a des choses qui sont passées dans ce pays, que ce soit sous Diouf, sous Senghor, et même si on n'y prend pas garde, ça risque de se passer sous Macky Sall parce que c'est un problème de système. Vous l'avez dit tantôt, un système qui est pourri. Alors il faut enlever le système. Il ne s'agit pas d'enlever les hommes qui sont là et qui dirigent. Les hommes, les ministres se succèdent. Depuis Abdoulaye Wade jusqu'à nos jours, on a connu plus d'une cinquantaine ou une centaine de ministres. Mais le système est encore là. Les procédures d'enrichissement illicite sont encore là. Donc il faut s'attaquer à ces mécanismes, s'attaquer à ces à ce système et puis mettre en place un nouveau système. Donc, et pour cela, il faut une réforme de gouvernance. Effectivement, il faut une réforme en profondeur, il faut une réforme de nos systèmes de gouvernance.
Oui, je rappelle que vous suivez Rémi Ménage qui reçoit Calignan, sociologue universitaire, Racintala, journaliste et communicant. Racintala, la libération de la liberté provisoire accordée à Barthélémy Diaz fait couler beaucoup d'encre. Certains Sénégalais disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi on a libéré Barthélémy Diaz. D'autres ne comprennent pas que Macky Sall, qu'il avait pris un engagement, disent-ils, pendant la campagne électorale, que dès qu'il sera au pouvoir, il va libérer Barthélémy Diaz. Et pourquoi on a libéré
Macky Sall n'a pas libéré Barthélémy Diaz, ça je pense que...
C'est
quelle opinion, attention, parce que l'opinion c'est aussi des opinions, voyez-vous. Mmh. Moi je pense que l'affaire Barthélémy Diaz a été traitée comme elle doit être traitée. Les propos prêtés à Macky Sall durant... Moi, je pense que c'est... Même si Macky Sall a eu à le dire, je dis que même si a eu à le dire, c'est simplement sous forme de boutade. Moi, j'étais avec Macky Sall tout le temps, mais je ne l'ai jamais entendu dire ça. Mais lui-même, il ne peut pas prôner dans son programme de campagne la bonne gouvernance, l'équilibre entre les différents pouvoirs et quand même... influencer le cours de la justice pour que il soit libéré. Je pense que ce qui a déclenché cette liberté provisoire, c'est la deuxième arme qui a permis de prouver que, en tout cas, la balle qui a tué monsieur, j'ai oublié son nom, Diouf. En tout cas, ne venait pas des deux armes
les armes détenues par Barthélémy.
Voilà, détenues par Barthélémy. Donc là, je ne vois véritablement pas l'implication de Macky ou de quelqu'un qui lui serait proche, véritablement. Donc la corrélation, elle est vraiment tortueuse entre une déclaration de campagne et une décision de justice. Et Barthélémy l'a lui-même dit, c'est une liberté provisoire. Si demain jugé coupable, mais il va se coucher en prison.
Oui, Khalidia, il y a quand même mort d'homme, même si c'est un nervi qui a été tué.
Absolument. Donc, dès lors qu'il y a mort d'homme, je pense qu'il appartient à la justice de dire le droit. Mais moi, par principe, je m'interdis de commenter une décision de justice. Et je me souviens, en son temps, je disais dans une station radio ou télé que les vrais criminels sont ceux-là même qui ont envoyé ces jeunes, n'est-ce pas, s'attaquer à une mairie, à une institution publique. Ce sont ces gens qui, de mon point de vue, sont les véritables criminels. Ce sont ces gens qui, de mon point de vue, doivent aller en prison. Ce qui s'est passé, bon, je pense que nous tous, nous l'avons vu. Nous avons nos points de vue personnels. Mais il appartient, comme je l'ai dit encore une fois, à la justice de trancher. Moi, je ne sais pas si c'est Barthélémy qui a tué ou pas. Je n'étais pas là-bas. Donc, je ne peux pas, sur la base de commentaires ou de rumeurs, l'inculper ou, si vous voulez, le blanchir. Mais il faut que nous ayons, si vous voulez, confiance à notre système judiciaire. Peut-être que les magistrats les plus compétents, les plus vertueux, nous diront effectivement la vérité sur cette affaire-là. Mais il faut, s'il y a un mort d'homme, ce qui est regrettable, c'est vrai qu'Ndiaga Diouf, on l'appelle Nervi, Mais avant d'être Nervi, c'est un citoyen sénégalais. Donc il a sa famille, il a ses parents, il a ses amis. Alors il est abattu dans des circonstances regrettables. Et voilà, je pense que de pareils actes ne doivent plus se reproduire au Sénégal. Et pour cela, je pense qu'il faut une insurrection des consciences, une insurrection des mentalités, et ne pas s'attarder sur les petites querelles politiques picrocolines, mais ne pas perdre en vue, si vous voulez, l'intérêt supérieur du Sénégal. Nous n'avons pas besoin de nous entretuer comme ça. Donc, c'est une société qui va à sa perte. Alors, la politique, je pense que, bon, ça peut être un moyen, n'est-ce pas, d'accéder à des stations, mais aussi, avant la politique, je pense que, fondamentalement, il y a quelque chose de plus important. Et c'est l'humain. Balangananam nefa. Il faut qu'on préserve, n'est-ce pas, notre société, qu'on préserve notre nation, qu'on préserve nos acquis avant vraiment de nous quereller pour des strapontins ou des positions de pouvoir.
Oui, mais Racine Talla, est-ce que, comme l'ont écrit certains confrères, on ne risque pas avec cette affaire Barthélémy Diaz de retomber comme l'affaire Babacar Sy, de ne jamais connaître les véritables coupables?
Bon, ça c'est anticipé sur ce que la justice décidera. Mais il est clair que cette affaire doit être traitée de la manière la plus rigoureuse. Il y va de l'intérêt, de l'image, si vous voulez, de la justice et même de l'image des nouvelles autorités. Mais non plus, il faut pas qu'on cherche aussi à acculer, à s'acharner sur ce dossier simplement parce que Macky aurait déclaré ou parce que Barthélémy serait dans le camp du pouvoir. Non, Barthélémy peut ne pas avoir tué Ndiaga Diouf. Ça aussi, pourquoi ne pas faire un pari optimiste sur cette situation-là? Nous tous, c'est ce que nous souhaitons. Parce que pourquoi l'hypothèse du sabotage n'est pas plus mise en relief que la culpabilité de Barthélémy Diaz? Là aussi, c'est une manipulation de l'opinion qu'il ne faudrait pas accepter et que moi, je récuse.
Khalidia, le rapport d'Amnesty International, de 2000 à 2012, 22 morts tués par les forces de l'ordre. Est-ce qu'on peut dire qu'au Sénégal, il y a une sorte d'impunité des forces de l'ordre parce que rarement, certaines d'entre elles sont traduites devant la justice?
Oui, mais c'est parce qu'il y a une vacuité juridique. Je pense qu'il n'y a pas de disposition qui, si vous voulez, peut favoriser la poursuite des forces de l'ordre, n'est-ce pas, en cas d'exaction, de torture ou de sévices. C'est pourquoi Amnesty, dans son rapport, a demandé à ce qu'il y ait des réformes en profondeur, n'est-ce pas, de notre système, de notre système judiciaire, en tenant compte des 22 morts, comme vous venez de le dire. Mais là aussi, c'est très complexe, parce que déjà, comme vous le savez, Amnesty est une organisation internationale. Le Sénégal est un pays souverain. Nous avons nos institutions qui fonctionnent. Alors, peut-être Amnesty peut faire des recommandations, mais bon, et ignorer en même temps, si vous voulez, ce qui fait que ce vœu, n'est-ce pas, pieux, ne puisse pas être pris en compte. S'il y a entrave, j'ignore fondamentalement les raisons. Mais je pense qu'il doit y avoir des réformes. Deuxièmement, il demande également une criminalisation de la torture. Bon, ça aussi, je pense que dans toutes les conventions et chartes que notre pays a signées ou ratifiées, je pense qu'il y a des conventions contre la torture qui ont été signées. Peut-être que Amnesty veut dire que le Sénégal est un pays de torture. Donc, de manière voilée ou d'impunité, de manière déguisée. Moi, je suis très prudent par rapport aux positions des organismes. Je suis plus enclin à protéger, si vous voulez, l'orientation politique de mon pays, parce que je suis dans une logique de souverainisme, de patriotisme. Même si je peux être d'accord, quelque part, des exactions qui sont commises par-ci, par-là. Amnesty fait allusion, n'est-ce pas, aux 22 morts du temps du régime de Wade, normalement, avec ce qui s'est passé, des cas de décès, n'est-ce pas, à des manifestations qui ont été autorisées et qu'il y a eu des réprimandes, etc. Donc, c'est condamnable, de mon point de vue. Mais il appartient, encore une fois, à notre État de faire des efforts supplémentaires, mais aussi de ne pas oublier, si vous voulez, l'intérêt supérieur de ces forces de l'ordre-là. il y a des, les policiers ne sont pas protégés. Pourquoi Amnesty ne parle pas de protection des forces de l'ordre? Les policiers sont agressés, les policiers sont tués, même sous Diouf. Vous rappelez de cette histoire, n'est-ce pas?
Du 16 février.
Du 16 février, où est-ce qu'était Amnesty à l'époque? Le Kandiaga Diouf, est-ce que Amnesty en a fait cas? Donc, il faut arrêter. Donc, je n'ai rien contre cette organisation, mais parfois, moi, je doute de ses positions. Moi, je pense que nous sommes un pays indépendant, libre. C'est à nous de tracer notre orientation. C'est à nous de donner un contenu à nos systèmes judiciaires. C'est à nous de, si vous voulez, mettre à l'abri, si vous voulez, nos forces de l'ordre. Les exactions, il n'en manque pas, je suis d'accord. Mais je pense que c'est des imperfections qu'il faut corriger. Mais dire que le Sénégal est un pays d'impunité, ça, de mon point de vue, c'est trop grave. Mais il ne faut pas prendre des cas isolés pour en faire un cas général.
La torture est quand même tolérable dans les commissariats.
Non, mais attendez. Non, je ne suis pas d'accord. Ça dit que quand on dit que le Sénégal est un pays de torture, le Sénégal n'est pas un pays de torture. Ce n'est pas vrai. Il peut y avoir, si vous voulez, des cas isolés. Ça, je n'en dis qu'on pas.
22 morts quand même.
Oui, peut-être. Bon, il ne sait pas ce qu'ils ont fait le cumul. Hein. Ils ont fait le cumul, 22, effectivement. Même si ça, c'est un mort ou même deux, déjà, c'est trop, si on pouvait l'éviter. Mais caricaturer le Sénégal comme un pays de torture, ce n'est même pas bon aux yeux de l'opinion internationale. Parce que je pense que c'est des points en moins. On perd notre crédibilité, encore une fois. Le Sénégal n'est pas un pays de torture.
Au-delà de la torture, il y a aussi un autre sujet qui intéresse les Sénégalais, c'est la dépravation des mœurs au Sénégal. On a vu tout dernièrement sur Internet ce cas d'histoire de lesbiennes qui serait dans un spectacle, qu'on a mis des vidéos. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le Sénégal est malade?
Ah non, le Sénégal n'est pas un pays de torture non plus. Le Sénégal n'est pas un pays malade. Moi je pense qu'on est un pays normal. Parce que quand même, vous savez, il ne faut pas prendre... pour argent comptant tout ce que les médias disent, parce que les médias aussi le rôle c'est pas simplement d'informer, c'est des vidéos, tout à fait, mais combien de gens regardent, et parmi ceux qui regardent combien sont influencés? Ça c'est une question. Donc c'est généralisé comme ça, je pense que ce n'est pas tout à fait recommandé quand on analyse des questions de ce genre. Il est vrai qu'à un moment donné, dans l'actualité, un événement peut surgir et les populations s'en emparent. C'est comme cette histoire de lesbienne. Oh, peut-être qu'il y a plein d'autres histoires qui se passe dans nos chaumières ou sous nos chaumières, mais qui ne sont pas révélées par les médias. Mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, il y a de profondes et sérieuses mutations. On ne peut plus raisonner en termes de « oui, société sénégalaise, voilà ce qui constitue les valeurs sénégalaises ». Non, nous sommes devenus un monde ouvert, nous sommes devenus un monde interconnecté. Forcément, ça agit sur notre perception du monde, ça agit sur nos comportements, ça agit même sur notre manière de regarder ce que nous considérons même comme notre culture. Aujourd'hui, le phénomène des lesbiennes, c'est très très compliqué, parce que les gourdiguennes, déjà, c'était compliqué quand on parle de façon très très littérale, mais faire accepter ce phénomène, C'est extrêmement difficile. Mais bon, le phénomène, il est là. Ça ne veut pas dire qu'on est une société...
Kali, est-ce que la société sénégalaise est assez préparée par rapport à ces genres de situations?
À ces mutations,
ouvert à ces mutations?
Oui, non. Non, c'est-à-dire qu'effectivement, les mutations sont là. Mais il faut savoir que ce phénomène est une manifestation concrète d'une société en crise. La crise, au sens sociologique du terme, ou au sens d'Antonio Gramsci, c'est quand l'ancien n'est plus et que le nouveau tarde à naître. Et que le nouveau tarde à être régi par des normes sociales contraignantes. Alors, cette crise des valeurs, si vous voulez, est une résultante des dysfonctionnements qui sont opérés dans le processus de socialisation. La socialisation, c'est cette manière d'agir, de penser et d'être, n'est-ce pas, qui est inculquée à l'individu.
Il y a une impréparation.
Justement, les individus, justement, ne sont pas préparés parce que les familles qui étaient des agents de socialisation sont disloqués. Il y a l'individualisme. L'école aussi ne joue plus son rôle. Alors voilà, c'est ça, cette crise qui a tracé les sillons, n'est-ce pas, de cette vague de dépravation des mœurs. Maintenant, c'est la rue qui éduque. Nous sommes dans une situation de marchandisation, si vous voulez, des rapports sociaux.
C'est tout de l'argent.
Justement, la seule valeur aujourd'hui, c'est l'argent. Donc, nos sociétés ne transmettent plus de valeur. Donc, c'est l'argent qui joue un rôle central. Et il y a aussi le phénomène du diffusionnisme des traits culturels. Le diffusionnisme, c'est un phénomène qui est inéluctable. Alors, les traits culturels, c'est comme des étoiles, là, des constellations d'étoiles qui voyagent et qui migrent. Ces phénomènes, c'est propagé. Donc, on l'a vu dans d'autres continents, dans d'autres pays. Et voilà, c'est un phénomène qui va suivre son cours normal. Et c'est arrivé, n'est-ce pas, au Sénégal. Et maintenant, ça risque de prendre des proportions inquiétantes parce que rien n'est fait pour l'arrêter. Entre nous, les médias sont complices. Entre nous, parce qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe dans certains sites internet, les technologies de l'information, certains feuilletons, etc., voilà ce mode de socialisation nouveau, n'est-ce pas, qui nous est, si vous voulez, servi et qui, de mon point de vue, va avoir des conséquences sur le comportement, sur les attitudes de nos enfants-là. Ce qui s'est passé à Grand Yoff, c'est ça, des enfants mineurs, pour la plupart, qui s'adonnent à des jeux sexuels, à des jeux érotique. Donc, s'il y a une banalisation du sexe, donc le tabou, n'est-ce pas, est parti définitivement. Ces jeunes seront les professionnels, n'est-ce pas, du sexe d'ici 2 ou 3 ans. Ce sont ces mêmes filles qui vont faire les trottoirs parce qu'ils ont été, effectivement, ils ont passé leur examen entre groupes. Donc, il y a l'esprit du groupe qui prime. C'est pourquoi c'est dangereux et que l'État doit prendre ses responsabilités.
En quoi faisant ?
Alors, il y a un travail de redressement à faire. Il y a ce que j'appelle les docteurs de la loi, les docteurs de la foi, c'est-à-dire que les religieux, etc., doivent s'y mettre. Les docteurs de la loi, ceux qui tiennent là nos juridictions, doivent réprimer de manière sévère certaines pratiques. La cybercriminalité, elle est réprimée. La pédopornographie, elle est interdite. Mais ces textes ne sont jamais, jamais appliqués. Il y a aussi des responsabilités familiales, communautaires, sociétales. Mais aussi, l'État aussi, de mon point de vue, à baisser les bras et à laisser certains phénomènes, n'est-ce pas, prendre une ampleur inquiétante.
Voilà, merci infiniment à mes invités. Merci à Racine Tala, journaliste et communicant.